On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Eh ben, j'ai envie de dire.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip.
Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi? Comme.
Salut à tous, vous écoutez Le Chip, le podcast afro d'Arte Radio. On est de retour après une petite absence, longue absence, je sais pas, ça dépend des gens qui nous écoutent. Je m'appelle François Oulac et je suis avec Kevin Donna. Ça va,
hello,
Kevin?
Hello, ça va très bien.
Et avec Célia Potiron. Salut Célia.
Salut.
On est ravis que tu sois avec nous.
Je suis ravie d'être là.
Super, bah comme ça c'est réciproque. Mélanie n'est pas avec nous aujourd'hui, elle a préféré prendre des petites vacances pour se reposer après sa longue maladie, on lui souhaite bon rétablissement. Alors cette semaine on va parler de Black Love, on va parler de relations amoureuses entre noirs et on va parler du Rêve français, donc un film sur le bimidome avec un acteur qu'on aime bien.
Ian Gael, qu'on avait reçu déjà, il y a quelques mois dans le Chip 2.
Qu'on avait déjà reçu en effet. Vous saurez ce que c'est le bimidome si vous savez pas ce que c'était. Et avant ça, je vais vous demander comment vous allez, évidemment, comme d'habitude. Kev, ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas enregistré ensemble. Pas
ouais, ça fait un mois. Ben non, tout va bien. Les visites se passent bien. J'ai eu un petit sujet pas mal du tout. En fait, j'en ai eu deux. J'en ai un sur AJ+, et un autre sur France 24.
Donc, hey, voilà. That's my man.
Yep, my man. J'ai l'impression que chaque début d'émission, en fait, c'est la revue de presse de Kevin Donna. Ça commence à me
saouler. Ah, mais le mec, il est busy, attends.
Il faut ce qu'il faut.
Tu commences à me fatiguer. Célia, on te connaît d'amour pour toi, on te connaît.
Oh, c'est trop mignon.
On te connaît du podcast Moonwalk sur
ouais,
le média
ouais,
le RAC, où tu ouais. parles de la société martiniquaise, de la culture.
Ouais, de ce qui me touche, de ce qui pour moi représente des questionnements et je vais à la recherche des réponses, ou en tout cas j'essaye. Donc ouais, je fais Moonwalk et Moonwalk d'ailleurs c'est M-O-U-N.
Pas de E.
Pas de E et pas deux O. Comme on pourrait penser que c'est moon comme la lune en anglais. Parce que moon, en fait, ça veut dire les gens en créole. Mmh. Voilà, donc c'est moonwalk, ouais.
Ça reste à ce jour le meilleur nom de podcast, enfin le meilleur jeu de mots.
C'est vrai
Je trouve.
Tu trouves oh, ouais. En plus, franchement, je suis number one fan de Michael Jackson, donc franchement, je suis assez fier en fait de l'avoir trouvé, j'avoue.
T'es aussi également sur le podcast Piment, donc.
Ouais. Non, mais en fait, là, en ce moment, je suis hyper busy. Donc effectivement, là, jeudi, on a sorti l'épisode 3 de Moonwalk. Samedi, on a fait, donc, comme d'habitude, le direct de Piment. Donc, on a tourné l'épisode 13. Donc, Moonwalk, on a parlé, j'ai parlé de l'organisation, des organisations féministes en Martinique, de son histoire. Et j'ai interviewé une femme qui est très importante pour moi, qui s'appelle Georges Arnaud, qui est une grande figure du féminisme en Martinique. Et j'étais très contente de l'avoir avec moi et de comprendre un petit peu comment elle a mis ça, tout ça en place, ces organisations. Elle était à l'Union des Femmes. Après, maintenant, elle est présidente, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, elle fait partie de l'association Culture Égalité, qui sont, dans les deux cas, des associations très importantes en Martinique pour le rôle qu'elle joue pour la défense, en fait, des droits des femmes. Et puis, voilà, donc, en fait, Georges Arnaud était importante. Je la connais depuis que je suis enfant. Tu sais, quand j'étais dans les routes fortes de France avec mes parents et qu'on allait à la maison des syndicats pour les X...
Gauchistes
Mais voilà, donc c'était quelqu'un d'important. Donc, j'étais contente de l'avoir dans Moonwalk. Et puis, samedi, Piment tourné en direct. C'est sorti hier sur SoundCloud. On a parlé de quoi? On a parlé d'Annalise Keating, du fait que... encore de femmes d'ailleurs, parce qu'on parle en fait du fait que les femmes, elles ont toujours, dans les rôles de fiction qu'elles ont, on a toujours envie, en tout cas on les met toujours dans une posture de sympathie, des personnes agréables, etc. Donc on se posait la question de l'intérêt qu'il y ait de plus en plus de femmes antipathiques, ou en tout cas de personnages noirs, féminins, antipathiques, et de l'intérêt que ça avait pour nous et pour la fiction
comme
aussi.
Comme dans How to Get Away with Murder.
Comme Annalise Keating dans How to Get Away with Murder, par exemple. Ou Nola Darling, qui est un peu antipathique dans sa façon. Dans...
Ah bah merci. Non, mais pour une fois que je rencontre quelqu'un qui ne soutient pas Nola Darling, comme moi, ça fait plaisir.
Ouais, non, mais elle est un petit peu antipathique. Ouais, elle est clairement antipathique, mais c'est bien. C'est bien qu'elle le soit. Moi aussi, je le suis des fois.
C'est bien.
Donc,
c'est...
tu vois.
Mais très bien. Je retiens ça.
Voilà.
Bon, il y a eu la Nuit des Noirs à Dunkerque, là, le festival Blackface, samedi dernier. Il y a eu pas mal de bullshit ces derniers temps dans l'actualité. C'est pas tous les jours facile d'être noir, j'ai l'impression, en France. Alors on va essayer de baigner dans un peu plus de positivité. On va parler
d'amour,
de choses comme ça. Donc voilà, respirez, détendez-vous. Mais avant tout ça, on va quand même faire le trash show iconique.
Le Trashico.
Trash ou iconique?
Le Trashico.
Le Trashico. Ouais, alors moi j'ai un double trash ou iconique. Le premier, c'est un trash qui commence comme un iconique. Parce qu'en fait, c'est l'élection de Tony Iwobi en italien, qui est donc en Italie, qui est le premier sénateur noir de l'histoire italienne. Donc là, je me dis, ah, Black Excellence. Mais en fait, il va siéger dans les rangs de la Ligue, le parti d'extrême droite mené par Matteo Salvini. Donc Tony Iwobi, il est italien, mais en fait, il est né au Nigeria. Il est arrivé étudiant en Italie. Il se définit comme un pro-business. En fait, à la base, il s'engage en politique pour moins d'impôts, pour un régime fiscal différent dans le nord de l'Italie. Et il dit que la Ligue, donc le parti d'extrême droite, n'est pas un parti raciste. On va quand même rappeler que Roberto Calderoli, donc un des membres importants du parti, avait traité Cécile Kyenge, donc la première femme noire entrée au gouvernement italien en 2013. Il l'avait qualifiée de d'orang-outan. Donc voilà, c'est quand même assez raciste. Et puis un petit big up à Mario Balotelli, qui lui est toujours iconique, 14 buts en Ligue 1.
Que pour ça. Hein.
Mais pour plein d'autres choses, mais notamment pour ça. C'est moi qui suis aveugle, ou alors on ne lui a pas encore dit qu'il était noir, mais quelle honte.
C'est lui qui a dit ça.
C'est lui qui a dit ça à propos d'Iwobi, et Iwobi a répondu en gros les trucs classiques de « faut que les footballeurs ferment leur gueule », voilà. C'est mon premier trashico. Et le deuxième, bah, c'est Damso, qui ne pourra pas chanter pour la Belgique à la Coupe du Monde cet été parce que des associations féministes en fait, l'ont dénoncé comme misogyne parce qu'effectivement, il y a des propos misogynes dans ces paroles. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Célia, toi notamment?
C'est le féminisme blanc, je suppose. Hein, je dis ça, je dis rien. Mmh. Non, mais moi, ça me... Je trouve que c'est dommage parce que, par exemple, on prend le cas de la France, tu as un mec comme Gainsbourg qui est un chanteur qui avait des propos extrêmement misogynes et qui... au dehors de ses chansons, en plus, dans des interviews où il était sur des plateaux, avait des comportements complètement inacceptables.
On pense à Whitney Houston,
en plus. Il fume des clopes, il lui a balancé un billet, il a traité de pute, je crois. Enfin, si je peux dire ça ici, je sais pas.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser.
Mais il a dit...
I want to fuck you.
Ah, voilà. Ouais, voilà. Tu vois, moi, j'ai résumé, tu vois. Ouais. Donc, en gros, ce Gainsbourg reste un personnage important dans la culture française, donc...
Ça me permettre d'en glisser un autre. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Claude François là, qui est sortie récemment, la vidéo d'archives de Claude François, où il dit qu'en gros il n'aime les filles que jusqu'à l'âge de 13 ans. Parce qu'en fait, après, elle commence à... Il y a un problème, parce qu'elle commence à réfléchir à partir de 13 ans, elle commence à réfléchir, à être pubère, et là, ça n'intéresse plus
du
tout.
Et là, c'est pas dans une chanson.
Après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis, on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans.
Non, mais là, c'est les années 70, les gars.
C'est la vraie vie.
Ah oui, bien sûr, ouais. Non, c'est nul.
Sinon, moi, j'ai écouté l'extrait d'une minute du morceau donc, humain que Damso avait prévu pour les Diables Rouges de Belgique.
Il a sorti qu'une minute, en fait.
Il a sorti un petit extrait d'une minute.
Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le perso, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
J'ai pas trouvé ça ouf, perso.
Moi, j'ai trouvé ça bien.
C'est un bon morceau, mais moi, un hymne de foot, je m'attends un peu à un hymne de stade, quoi.
Ouais, tu voudrais plus du Waka Waka.
Un truc que les supporters peuvent reprendre facilement.
Mais après, tu penses au son de Johnny, tous ensemble.
Allez, les bleus.
Non, mais ça, c'est nul. Donc, en fait, ces chansons-là, elles sont jamais bien.
En tout cas, c'est resté. Hein. Allez, les bleus, tous ensemble, c'est resté.
Allez, les bleus, on est tous avec.
Ouais. On a proposé, il y a des médias qui ont proposé pour remplacer Damso, Balogi, un autre rappeur belge, aussi d'origine congolaise. Et donc on l'a mis dans une position très inconfortable.
Il leur a fait un double phoque.
Exactement, et il a répondu: quand des médias qui n'ont jamais supporté ma musique me demandent de remplacer un artiste majeur qu'ils ignorent autant, fuck you very much, hashtag vie.
Alors moi, j'ai également un iconique qui est aussi un peu trash. On est très ambigu aujourd'hui là dans le chip. Va falloir me suivre un petit peu. En fait, c'est en Afrique du Sud. Mmh. L'Afrique du Sud a découvert un nouveau fleuve, la rivière des White Tears.
Faut expliquer ce que c'est les White Tears, alors.
Non, pas besoin, c'est bon. Chers auditeurs, écoutez l'épisode qu'on a fait avec Marie da Silva, la snatcheuse de France, vous saurez ce que c'est que les White Tears. Alors en fait, depuis que le Parlement a pris une décision historique, celle d'exproprier les fermiers blancs pour redistribuer les terres en fait, à des populations noires. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a environ 73% des terres arables, des terres cultivables, qui sont possédés donc par des Afrikaners, par des bourgs, les immigrés colons blancs qui peuplent l'Afrique du Sud. En fait, fin février, le Parlement a fait passer une motion pour modifier la Constitution et permettre l'expropriation sans compensation, donc pas en mode « ouais, on vous rend Haïti, mais vous nous payez une dette derrière », non, expropriation sans compensation des fermiers blancs. Et donc, pour l'instant, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, on ne sait pas comment ça aura lieu, quand ça aura lieu.
Ouais.
Le Conseil constitutionnel d'Afrique du Sud est en train de statuer là-dessus pour savoir si c'est faisable, et on aura des réponses en août. Et pourtant, ça crée un débat incroyablement tendu et émotionnel pour des
raisons. C'est symbolique, la terre.
Bah, voilà, c'est ça. C'est pour des raisons qu'on imagine très facilement. On parle des terres qui ont été prises par les colons et qui ont été retirées justement aux Africains qui étaient là avant que les colons arrivent. Et donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. On s'en fout l'agriculture, mais tout le monde est à couteau tiré. Donc, il y a un truc qui est marrant, c'est que déjà la Constitution permet déjà d'exproprier sans compensation. En fait, l'article 25 garantit le droit à la propriété privée, comme dans beaucoup de démocraties, j'imagine. Mais il stipule que la propriété privée, si jamais elle empêche l'État de redresser les injustices raciales causées par l'apartheid de la colonisation, dans ce cas-là, elle saute. Donc déjà, là, si le gouvernement, sans même modifier la Constitution, si le gouvernement, ils arrivent à prouver qu'en expropriant les fermiers blancs, ils arrivent à redresser les injustices, déjà, boum, les mecs sont niqués, plus de propriété privée, ils sont virés sans compensation. Ça, c'est le premier truc marrant. Le deuxième truc marrant, c'est les white tears. Alors, il faut vraiment que je vous raconte parce qu'il y a des hectolitres qui ont coulé là. En fait, t'as la droite dure et les médias conservateurs, non seulement sud-africains, mais également américains et anglais, qui sont en train de hurler au génocide blanc,
au
racisme systémique. Les blancs découvrent le racisme systémique, c'est assez incroyable. Ils sont en train, par exemple, Glenn Beck, chroniqueur conservateur américain, est en train déjà de crier à la guerre des races, etc. C'est assez énorme. Il compare la situation, notamment, pas Glenn Beck, mais les droitistes, comparent la situation à ce qui s'est passé au Zimbabwe dans les années 2000, lorsque des fermiers blancs ont été expropriés de manière violente, mais c'est un contexte très différent. Et devinez qui est le messie, en fait, des fermiers Afrikaners. Essayez de deviner. Qui est le messie des Blancs en 2018?
Il est Trump.
Oui, Donald Trump.
Je pensais que t'allais dire T'Challa, Black Panther.
Non, Donald Trump. Il y a une pétition qui demande à Donald Trump de laisser les fermiers blancs migrer vers les États-Unis.
Mais qu'ils y aillent. Il y a une
pétition qui dit « Donald Trump, s'il vous plaît, on est blanc, on est en train de se faire génocider en Afrique du Sud. » Accueillez-nous aux États-Unis.
Mais je crois
qu'il
a une politique d'immigration qui est assez difficile. Hein, en plus. Là.
Et donc, attends, la pétition suggère également de bloquer et d'arrêter d'accueillir les réfugiés de Somalie et du Moyen-Orient. En fait, la pétition dit dans le texte, en fait, voilà, ils sont trop nombreux, on ne peut pas les accueillir. Et en plus, ils ne sont pas qualifiés. Nous, on est Européens, on est Blancs, donc on est un peu... Voilà, c'est un peu la famille, quoi. Ouais. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous venir, quoi. Ce serait cool. Il y a une autre pétition également qui demande à l'Union Européenne, donc à Jean-Claude Juncker, le président de l'Union européenne, d'accueillir les fermiers blancs, puisque les Afrikaners, les bourgs, viennent à la base surtout d'Allemagne et des Pays-Bas.
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Eh ben, j'ai envie de dire.
Vous savez ce qu'il leur faut? Il leur faut un bon Marcus Garvey.
Ah, oui.
Ils sont en Europe et tout, ils battent
les mecs ont même invoqué, l'exemple d'Israël. Bah ouais, retour à la terre-mère, tout ça. Ah bah ça marche plus d'un coup, là.
Non, mais après, ça, c'est inspirant, parce qu'on se dit que peut-être que les béquets sont vraiment seront prêts à rendre leur terre, en faire en Martinique, parce que du coup, ils sont quand même les plus gros propriétaires terriens de Martinique et ils ont hérité de la terre qu'ils avaient volée quand ils sont arrivés, qu'ils ont colonisé en fait et génocidé le peuple qui était là. Donc, ça donne, j'espère, de l'espoir pour les autres endroits du monde où ces choses-là se sont produites aussi.
Ça donne des idées, c'est un superbe exemple, je trouve, de réparation tout à fait légale et moderne qui va se faire sûrement, j'espère, sans trop de heurts. Et puis c'est un bel exemple.
Il y aura des heurts.
Mais bon, en tout cas, c'est un bel exemple d'ironie sur le double standard et le double discours sur la migration. Bref, voilà, c'était mon trash iconique. Et toi, Célia, est-ce que tu veux participer au trash ou iconique?
Oui, j'ai préparé un iconique.
Un iconique.
Mesdames, c'est surtout pour mes petites dames. En tout cas, même pas d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont fans de Koffi Siriboé. Siriboé, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Je vais dire Siriboé hein, aujourd'hui. Alors, Koffi nous a, comme d'habitude, fait profiter d'un post Instagram dans le cadre de la Journée internationale pour le droit des femmes. Donc, il avait déjà fait il y a un an ou deux ans où il rendait hommage en fait aux femmes noires, notamment à sa mère, etc. Et là, Ella. L'acteur afro-américain d'origine ghanéenne nous parle, en fait, nous dévoile en fait, qu'il est amoureux et qu'il serait en couple avec Duki Tots. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est un modèle, c'est un mannequin australo-soudanais qui a été découvert dans Australia Next Top Model. Bref, Kofi Siriboé, c'est pour moi le plus beau mec on earth. Là, okay. En 2018. Je le trouve magnifique. Son rôle de Ralph Angel dans Queen Sugar, qui est une série qui est produite et réalisée par Ava DuVernay et Oprah Winfrey. Il a un rôle magnifique. Le mec, il est tellement beau. Il est brillant. I ain't doing this no more. Il est discret, il est intelligent. Bon, voilà, je suis très objective sur le personnage.
Un petit truc, si vous ne voyez pas, c'est celui qui joue avec un pamplemousse dans Girls Trip.
Oh yeah! Oui, c'est vrai. Oui, Kofi. Voilà. Donc voilà, il est en couple avec, avec ce mannequin qui est une très très belle femme noire avec une peau magnifique, une dark skin woman. Ah ouais. Et on est très content, en tout cas moi je suis très contente de voir Kofi avec cette femme. Elle est brillante elle aussi. Et,
mais t'as pas le cœur brisé du coup qu'il soit...
Si, mais c'est bon, ça va. S'est passé.
En tout cas c'est un beau cas de black love justement. La meuf est vraiment dark skin, elle est magnifique quoi.
Après bon, je veux pas objectiver, elle a un faciès assez incroyable, ça m'a une poupée. Elle est très belle. Et,
elle fait mannequin de toute façon.
Ouais, après les mannequins. Et en tout cas, moi, je la trouve très belle et je trouve qu'elle a des positionnements aussi en termes de comment dans l'industrie de la mode, on s'occupe en fait de mettre en avant les beautés et surtout de s'occuper en termes de maquillage des cheveux et des peaux des femmes noires. Et elle prend position sur ces choses-là. Donc, comme on en parlera après, mais y a pas, le black love, c'est pas qu'elle soit une femme noire belle, mais c'est aussi ce que chacun dit de ce qu'il est en fait en tant que noir, qui est intéressant.
D'accord. Est-ce qu'on passerait pas au black love ?
Effectivement, c'est un sujet dont on a envie de parler depuis un moment. L'année dernière, on avait fait un sujet sur relations interraciales et je pense que c'est intéressant aussi de voir les choses dans un autre sens.
Bah ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait parler un peu du sujet miroir finalement au couple mixte. Alors il y a deux choses dont Evie et moi on aime bien discuter quand on se retrouve hors des émissions. C'est l'expérience noire forcément et puis les relations amoureuses. Alors, Kevin, toi, tu es en couple stable depuis un long moment, je crois.
C'est ça, 2 ans et demi.
C'est ça, ta copine est martiniquaise.
Oui, c'est ta cousine.
Et c'est ma cousine. Quoi? T'as touché ma cousine? Célia, c'est quoi ta situation à toi?
Compliqué, mais je suis actuellement plus en couple.
D'accord, messieurs, prenez note, je dis ça, je dis rien.
Ok.
Ouais, bon, moi, on va dire que je vis dans une série Netflix, pour faire simple.
Ok.
Et donc, très naturellement, on a eu envie de parler de Black Love. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte. Vous n'hésitez pas à rebondir si vous avez des trucs à rajouter. Je vais essayer d'aller assez vite, comme ça, et d'être très schématique. L'expression de Black Love, évidemment, c'est une expression qui vient des États-Unis et qui désigne les relations entre personnes noires. Alors, évidemment, ça peut paraître con comme ça, dire Black Love, ben ouais, parce qu'il n'y a pas de White Love, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Asian love, il n'y a pas de Indian love. Mais lorsqu'on regarde un peu le contexte dans lequel les relations amoureuses entre personnes noires ont émergé aux États-Unis notamment, on comprend très vite pourquoi le black love existe. Alors, je vais vous donner des petits éléments, des choses qui pouvaient se mettre en travers de la route de deux personnes qui s'aiment noires pendant l'esclavage. Alors, aux États-Unis, un esclave était en moyenne vendu 4 fois dans sa vie. Déjà, c'est un premier truc, c'est que là, il y avait beaucoup de séparation de corps. Les esclaves n'avaient pas le droit de se marier. Et les femmes, évidemment, étaient violées par les propriétaires terriens. Les hommes également étaient violés. Est-ce que vous connaissez le terme de « buck breaking » ?
Non.
C'est un terme anglo-saxon qui désigne en fait le fait de violer un esclave homme noir devant sa famille ou devant toute la plantation pour le briser, pour à la fois briser les couples, briser les noyaux familiaux, mais également le briser lui dans sa masculinité. Par exemple, un mec qui se la raconte un peu trop, qui est perçu comme trop viril, on en revient là aux racines de la virilité noire, et ben cet homme-là pouvait être victime du buck breaking. Donc voilà, tout ça pour dire que, et puis en France évidemment, les unions entre les esclaves étaient permise, mais uniquement avec l'assentiment du maître.
Quand tu dis en France, tu veux dire dans les colonies françaises ?
Dans les colonies françaises, bien sûr. Quand on met des films comme, je sais pas moi, Django ou Birth of a Nation, le thème des couples séparés est assez systématique, assez répandu, quoi. Donc, la première chose, l'esclavage, c'était pas super facile de fonder une famille. La deuxième chose, c'est le racisme intériorisé. Là, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait, No Reason to Black, sur le colorisme. Je vous renvoie également au deuxième épisode
de Moonwalk.
De Moonwalk, qui parle également de la façon dont le colorisme s'est installé dans la société martiniquaise. Tout ça pour dire que la colonisation a laissé aux Noirs des séquelles dans la perception d'eux-mêmes et également d'eux-mêmes entre eux. Et ça a donné lieu à beaucoup de clichés qui aujourd'hui persistent dans la vie amoureuse. J'en cite quelques-uns. Les femmes noires sont matérialistes, les hommes noirs sont volages et infidèles. Je fais dans les grandes lignes, hein, ouais. Parce que voilà, là je parle des hommes noirs comme s'il n'y avait pas de différence entre un Martiniquais et un Américain. Évidemment, il y en a. Les femmes noires sont mal éduquées, sont prises de tête, elles ont des attitudes, des choses comme ça. Les hommes noirs sont des fuckboys qui préfèrent les blanches également. Des choses comme...
Not.
On en reparlera si vous voulez après. Tout ça pour dire qu'en fait, le fait de sortir avec des non-noirs, une expression américaine dit « to date outside of your own race », je trouve ça assez parlant, a longtemps été vu dans la communauté comme une échappatoire ou comme une trahison selon les perceptions. Et tout ça pour dire que finalement, les relations entre noirs ne sont pas du tout quelque chose qui va de soi. Et donc le mouvement Black Love, c'est un mouvement c'est un concept qui tend à encourager les hommes et les femmes noires surtout les hommes, hein, à se valoriser les uns les autres et à construire des relations amoureuses entre eux. C'est une réhabilitation à la fois politique et également presque révolutionnaire, quoi. Lorsque tout le système des représentations, lorsque toute ta propre histoire, lorsque les conditions dans lesquelles tu as été élevé, lorsque tout le système des représentations sont contre toi et contre le fait que tu sois avec un ou une noire, ben Black Love dit non, il faut continuer à être ensemble. Les Américains ont un Black Love Day. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, ouais. Célia. Ça a lieu le 13 février. Donc la veille de la Saint-Valentin des Blancs. Ça a été créé par une activiste américaine qui s'appelle Ayo Handy Candy. Et donc chaque année, même toute l'année, si vous tapez Black Love ou Black Love Day sur Instagram, Twitter, vous allez voir une cascade de sourires et de bisous entre personnes noires. C'est super mignon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis. Il y a des podcasts, Black Love Matter. Toi, t'en écoutes pas mal, je crois, celle-là de podcasts sur les.
Ouais,
relations.
Mais justement, j'étais en train de me rendre compte en préparant l'émission que je n'avais pas de mémoire écouter un podcast sur le Black Love.
D'accord.
Du coup,
parce qu'en fait, ils font des podcasts sur les relations amoureuses.
Alors, ils en
dans
font.
Un paradigme
mais
noir.
Ils en font. Alors moi, effectivement, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont faits par des Afro-Américains. Et effectivement, ça parle beaucoup aussi effectivement de leurs relations amoureuses et très souvent, en tout cas pour les podcasts que j'écoute, ils parlent de leurs relations avec des. Enfin, c'est des femmes qui parlent de leurs relations avec des Afro-Américains. Donc c'est on est déjà dans un. En fait, on n'a même pas besoin. Je crois qu'elles ont même pas besoin de le dire. Elles sont déjà dans un Black Love, entre guillemets. Et ouais, après, c'est plus complexe que ça, le Black Love, parce qu'effectivement, tu l'as dit, aux États-Unis, historiquement, il y a un background qui fait qu'effectivement, il y a ce besoin, en fait, de valoriser, en fait, l'amour entre deux personnes afro-américaines. Je pense que c'était utile de le faire, puisque visiblement, l'histoire ne l'a pas permis. Et aujourd'hui, je pense que, vu en tout cas comment c'est traité aux États-Unis, la question de l'amour à l'intérieur de la communauté afro-américaine, je pense que c'est extrêmement important pour eux. Ouais.
En France, ils ont une réflexion du coup qui date d'assez longtemps, que certains universitaires remontent aux années 30 avec un roman de Zora Hurston qui s'appelle Their Eyes Were Watching God, traduit en français par le titre Une femme noire, parce que les Français et la traduction de roman français.
Alors là, c'est incroyable. Noir.
Ouais, qui. En gros, voilà, c'est beaucoup de chercheurs remontent finalement la première occurrence de Black Love à ce roman donc de Zora Hurston, Harlem Renaissance, qui en gros parle d'une femme noire libre qui vit trois histoires d'amour différentes avec trois hommes noirs à chaque fois. Mmh. Et donc bref, ils ont une réflexion qui date d'il y a très longtemps là-dessus. Chez nous, en France, le Black Love.
Après, c'est différent.
C'est
très différent. Déjà, si tu prends le cas de l'esclavage, par exemple, de la façon dont il a été aux États-Unis, l'esclavage était fait sur le territoire américain, d'accord ? Donc, cohabitaient en fait des Blancs et des Noirs. Alors qu'en France, le cas de la France, par exemple, l'esclavage a été fait sur des territoires qui ne sont pas...
Il n'y a pas de continuité géographique.
Il n'y a pas de continuité géographique. Donc, la question du Black Love, par exemple, si elle devait se poser, on pourrait dire qu'elle se pose, par exemple, en Martinique. Eh ben non. Parce que finalement, les gens là-bas, ils sont tous noirs, en fait.
En grande majorité.
En grande majorité, ouais. Donc, la question de devoir avoir une démarche politique, de s'aimer entre personnes noires, n'existe pas.
Exactement.
Alors, par contre, effectivement, est-ce qu'elle se pose en France ? Elle se pose peut-être, mais en tout cas, pas du tout comme aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que, déjà, il n'y a pas de communauté. Tu vois, des Afro-Américains sont une communauté aux États-Unis, alors que je ne crois pas qu'il y ait une communauté noire en France, mais il y a des communautés noires en France.
Exactement.
Après, ça ne retire pas la problématique du fait d'être noir dans le marché de la séduction et de que ça consiste d'être ensemble quand on est deux personnes noires dans un monde où, qui est majoritairement blanc.
Exactement.
En revanche, effectivement, ça ne se met pas en place de la même manière qu'aux États-Unis, c'est
ouais.
sûr.
J'ai fait quelques recherches pour voir un peu ce qu'il y avait. Est-ce que, par exemple, des gens théorisaient le Black Love chez nous ? Est-ce qu'il y avait des podcasts ? Est-ce qu'il y avait des bouquins ? Est-ce qu'il y avait
ouais.
Peut-être des sites, des choses comme ça ? Je suis tombé sur deux, trois sites de rencontres un peu malaises. Rencontrer une
ça.
Femme.
Rencontre métisse et noire.
Rencontrer une femme africaine et métisse. Trouvez votre africaine
Quelle
demain.
Horreur. Oh là là.
Ah non, mais c'est vraiment affreux avec des vidéos trailers trop malaises.
Ah, j'ai
c'est
pas... T'as cliqué ? T'as osé cliquer ?
Bah, bien sûr. Non. Parce que journaliste d'investigation. Bref, c'est super malaise. Il y a un site quand même un peu sérieux qui est vraiment dans cette démarche qui s'appelle Afro Richas. Je sais pas si tu connais.
Non, j'ai pas vu, j'ai pas. Non, je connais pas.
Quel, je crois que tu connais
ouais,
un petit peu.
J'ai afroricha.com. J'ai été contacté par Marie, qui est à la base de l'initiative il y a quelques mois. Et en fait, l'idée c'est d'encourager des hommes et des femmes noires à se rencontrer. Le plus souvent, ça, elle disait qu'elle avait envie de sortir du speed dating, des soirées en boîte et des choses comme ça. Donc, elle a pensé une visite culturelle sur le thème du Paris noir. Et du coup, c'était très intéressant parce que la réflexion qu'elle avait, c'était de dire qu'en France. Sur cette question-là, on était un peu dans deux extrêmes opposés. C'est-à-dire que, par exemple, on va te dire, soit ta famille va te mettre une très forte pression, pas pour que tu sortes avec un homme noir, mais pour que tu sortes avec un homme qui vient du même pays. C'est quelque chose de national, c'est pas quelque chose de racial. On dit à personne, sors avec un homme noir, on va plutôt dire, sors avec
ou...
un Sénégalais, sors avec un Malien,
oui.
mais surtout pas avec un Camerounais, et peut-être mieux avec un Antillais, enfin un Guadeloupéen, qu'un Martiniquais.
Ouais, okay.
Ou alors l'inverse complet, de absolument pas du tout, faut absolument que ce soit un noir, il faut plutôt aller vers l'ascension sociale, ou alors on peut dire l'intégration, et dans ce cas-là, enfin un rejet complètement de tout ce qui est
ou le blanchiment de la race.
Voilà, le blanchiment de la race, et rejet total de ce qui est tout ce qui est afrodescent.
C'est en lisant un texte du blog de Mrs. Roots, où il y avait un hashtag, elle explique qu'il y a un hashtag en 2016 qui dit tout est noir sauf ma meuf.
J'avais vu.
Un truc comme ça.
Tout est noir sauf nos meufs.
Ouais. Tout est noir sauf nos meufs, en fait. Donc, alors, moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que le Black Love ne s'applique pas en France, en tout cas pas de la même manière qu'il s'applique aux États-Unis, mais il y a quand même une problématique en France.
Ouais.
Et quand tu entends le témoignage de femmes noires qui sont nées en France, qui se sont construites en France en tant que femmes, ce qui n'est pas mon cas, donc je parle pour elles, en fait, en tout cas, je dis ce que j'entends. Ces femmes-là disent qu'il y a un réel problème avec la place qu'elles ont sur le marché de la séduction et justement leur désirabilité en France, en fait. Parce que les hommes noirs sont, pour la plupart, on ne va pas faire des généralités, sinon avoir des black men tears, mais si tu veux... Mais si tu veux, ouais, y a une problématique, effectivement, qui est celle de quelle est la place de la femme noire sur le marché de la séduction en France. Et la place, elle n'est pas au-dessus de la pile. Et quand je dis de la femme noire, je ne parle pas de la femme métisse, machin. Je parle bien de aussi et surtout de la femme noire qui n'est pas dans un contexte noir valorisé. Donc, je parle de la femme, notamment, dark skin, par exemple.
Dans n'importe quelle situation, potentiellement, une femme racisée peut être trop noire pour être valorisée sur le marché de la séduction dans l'absolu.
Dans un monde raciste, oui.
Oui, d'accord.
Moi, la question que je me pose, tu l'as très bien dit, Célia, c'est qu'on n'a pas une communauté noire, mais des communautés noires en France, contrairement aux States. Quoi qu'on pourrait dire qu'aux States, il y a des Afro-Dominicains comme Cardi B, il y a des Nigérians également américains. Je pense que la communauté noire américaine est moins homogène que ce qu'on veut bien le croire. Mais c'est vrai qu'ils ont une sorte d'unité,
de conscience
de classe qui est plus forte que chez nous en France. Pourtant, tu l'as dit déjà, on a des problématiques ultra similaires, c'est-à-dire les clichés que j'ai évoqués tout à l'heure, pourtant ils existent aussi chez nous, et le Black Love aux States lutte contre ces clichés de dévalorisation mutuelle à l'intérieur de la communauté. Et on n'en a pas encore parlé, mais... L'un des corollaires du coup de cette mécanique de dévalorisation, c'est par exemple, vous savez, toutes ces célébrités qui sortent ou tous ces hommes puissants noirs qui sortent avec des femmes blanches et qui les voient comme des formes de trophée de promotion sociale, quoi. On, par exemple, les joueurs de NBA ou les chanteurs de R&B, dès qu'ils peuvent, ils sortent avec une femme blanche. Et évidemment, les femmes noires voient ça et leur donnent un gros side-eye. On a la même chose, on a la même chose chez nous. Donc, mais comment ça se fait que ça s'apprenne pas ici?
Moi, pour moi, la question du black love, c'est quelle est la place du politique, en fait, dans l'amour et dans nos choix de partenaires. Même pas dans l'amour, parce que l'amour, ça nous tombe dessus, c'est pas un truc qu'on choisit. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, bon. Mais dans les choix des gens qu'on met dans notre intimité, d'accord? Dans les choix qu'on fait, qu'on va faire pour être avec un partenaire. Et la question du choix, elle est hyper importante. T'as même pas besoin d'aller chercher des femmes blanches. On sait qu'il y a cette espèce de truc de la femme blanche. Ok, très bien. Mais déjà, à l'intérieur même, en fait, moi, je te parle de ce que je vois. À l'intérieur même, déjà, de notre groupe, on a des problématiques où vont être valorisées des femmes qui vont être métisses. Parce qu'il faut pas être trop noire, en fait, pour être un trophée, comme tu dis, avoir une jolie copine. Il faudrait qu'elle ait les cheveux bouclés. Celle-là, les yeux qui sont marron ou clair, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, déjà, même à l'intérieur même de la communauté noire, on a déjà cette espèce d'asymétrie ou de trucs un peu bizarres que tu vas retrouver, évidemment, si on est en France, on est dans un pays majoritairement blanc, ça va aussi se faire sur les femmes blanches, en fait.
J'entends ton point, mais j'ai deux choses à dire sur ça. C'est, la première chose, c'est les touristes étrangers qui sont surpris par la quantité de femmes noires avec des hommes blancs dans les rues de Paris, de voir autant de femmes noires avec des hommes blancs que d'hommes noirs avec des femmes blanches, comme s'il n'y avait pas de tabou plus que ça là-dessus. Et dans ce cas-là, ce n'est pas non plus qu'une fuite massive des hommes noirs qui s'en vont. Tout ce que tu dis sur les hommes noirs qui vont pratiquer le colorisme, qui ne vont pas vouloir s'afficher avec des femmes noires, qui vont utiliser le hashtag dont on a parlé, j'ai l'impression, alors pas du tout dans les mêmes proportions, je reste honnête, d'avoir entendu ça aussi de la part de femmes noires qui disent, ou de femmes racisées en général, qui disent « Ah non, moi je ne sortirai jamais avec un noir, un arabe, un asiatique, etc. » en étant elles-mêmes racisées, en disant « Je préfère les hommes blancs pour plein de raisons. »
Ce que je peux tout à fait comprendre.
Mais pourquoi tu le comprends ?
Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que la place d'un homme, c'est pas la place d'une femme. La place d'une femme noire, c'est pas la place d'un homme noir.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as déjà, je pense que la place de la femme noire sur le marché de la séduction, elle est compliquée. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple, je pense, et c'est vraiment mon avis, hein, mais je pense que c'est pas aussi simple pour une femme noire d'aller, de rencontrer un partenaire avec qui elle va faire sa vie. La question du célibat des femmes noires, c'est une question que on traite très régulièrement entre copines, et moi, je crois que c'est quelque chose qui est réel et qui est très fort. Il y a beaucoup, en tout cas autour de moi, et je parle que de mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes noires seules autour de moi. Donc le marché de la séduction, il n'est pas égal. Les hommes et les femmes noires ne sont pas sur le même pied d'égalité, et puis chacun va faire son marché. Non, les hommes, je donne mon avis, hein. Pour moi, les hommes noirs ont un marché qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus grand que le marché de la femme noire. La femme noire n'est pas valorisée, ne serait-ce que de son point de physiquement, et puis socialement. Ce n'est pas un trophée social, sauf quand elle est un peu métissée, je l'ai dit, et encore. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, et donc du coup les stratégies ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on peut demander à un homme noir s'il a envie, s'il peut, d'avoir une attitude politique et de se dire je vais donc choisir d'avoir une partenaire qui est une femme noire. Mais je pense aussi, au vu de la complexité et du marché qui est extrêmement étroit de la séduction pour les femmes noires, si demain il y a une femme noire qui décide de se mettre avec un homme blanc, ben qu'elle y aille, en fait.
Je me trouve être dans une relation avec une femme noire, mais j'ai pas le sentiment d'avoir dû faire une démarche politique pour y arriver. J'ai pas
mais
le sentiment
facile. Des Martiniquais d'avoir... qui vivent, ta copine est martiniquaise.
Eh ben, tu sais,
tu bénéficies de ta communauté.
Ben, ce que je te disais par exemple par rapport au célibat des femmes noires tout à l'heure, au rapport à la question française, c'est que une partie des problèmes que l'on a même en étant en France sont des trucs qui viennent aussi si tu es martiniquaise ou guadeloupéenne, qui viennent aussi de la société dans laquelle tu as grandi ou dans laquelle tes parents ont grandi. Un truc qui est très intéressant, c'est la forte présence de foyers monoparentaux en Martinique par des femmes célibataires. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre... je crois que la moyenne en Martinique de
41% de foyers monoparentaux.
Voilà, contre 15% au niveau français. Donc ça aussi, c'est peut-être des choses qui s'expliquent ou qui se retrouvent après dans les générations suivantes de femmes d'origine martiniquaise.
Alors, je suis pas sociologue, mais le marché en Martinique, il y a, je crois, 3 femmes pour un homme. Donc déjà, il y a un problème numérique. À côté du fait qu'il y ait des foyers monoparentaux. Ouais. Je dis pas que c'est lié, mais je dis que ça peut jouer.
C'est là, toi, est-ce que tu as déjà décidé, par exemple, que tu voulais faire ta vie avec plutôt un homme noir, plutôt un entier, plutôt un blanc, ou alors peu importe. Est-ce que tu as un critère là-dessus? Est-ce que c'est important pour toi, ce choix?
Je vais te répondre. Je t'aurais répondu il y a 10 ans quand j'étais au lycée où je faisais mes études en Martinique. Ah non, mais en fait, je ne t'aurais même pas répondu. C'était évident que j'avais envie d'être avec un Martiniquais parce que c'était l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc évidemment, j'avais envie d'être avec quelqu'un qui me ressemble. J'avais envie de danser du zouk, d'aller à la plage, de partager des choses qui sont ce que je suis.
Basique, normal.
Basique, ouais. Culturel. Après, on a donc, cette question-là ne se posait pas quand j'habitais en Martinique. En arrivant en France, je suis devenue noire. Donc effectivement, la question, est-ce que j'ai envie d'être avec un noir, se pose. J'ai envie de te dire, je ne sais pas, parce que j'ai peut-être envie d'être avec un Martiniquais, mais en même temps, je trouve qu'il y a parfois très peu de choses qui me lient à un Camerounais, par exemple, parce qu'à part le fait qu'on soit noir en France, on n'a aucune référence culturelle, on n'a pas la même vie, on n'a pas vécu dans les mêmes espaces, mais parfois on se retrouve aussi. Moi je suis allée au Ghana, j'ai rencontré un homme au Ghana et on a trouvé des choses qui nous liaient en fait, et j'aurais jamais pensé que c'était possible. Ceci étant, et là je vais sortir du Black Love, je pense qu'au stade où on en est en tant que femme, le plus important c'est même pas d'avoir un homme noir, ou c'est déjà d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous et qui nous respecte à l'intérieur de notre couple, en fait. Parce qu'il y a encore des femmes qui meurent sur le coup de leur conjoint. Il y a encore des femmes qui se font taper dessus par leur gars. La moitié des femmes qui se font violer en France se font violer par quelqu'un de leur entourage ou par leur conjoint, en fait. J'avais envie de te répondre plein de choses sur le Black Love, mais en fait, j'ai même envie de te dire que je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on puisse rester vivante à l'intérieur de nos couples et qu'on ne se fasse pas couper en morceaux dans une forêt. Donc déjà, si on pouvait... ne serait-ce qu'avoir à l'intérieur de nos relations des gens qui nous respectent et qui veulent notre bien et qu'on soit en sécurité à l'intérieur de nos couples, je pense que ce serait déjà pas mal en fait. C'est comme ça que je dirais ça. Mmh.
Finalement, le Black Love, c'est une forme de... au point où on en est pour l'instant, c'est une forme de luxe quoi. On verra ça plus tard.
Ça dépend pour que ça dépend de où on est, à quel moment on est dans sa vie et ça dépend de plein de choses, je crois.
On va devoir... Il y aura encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur le sujet. On en parlera... hors micro, c'est dommage. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Black Love, j'ai deux références à vous proposer. Il y a un podcast qui s'appelle Historically Black, un podcast du Washington Post, donc c'est forcément quelque chose de très 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 solide, vous vous en doutez. Il y a des guests parfois
les
qui
invités.
L'animent. C'est ça, merci Kevin. comme Issa Rae ou Jordan Peele, donc pour vous dire un peu le niveau. Et l'épisode 8 donc, du podcast Historically Black parle en fait justement des Black Love Stories et du Black Love. Et en gros explique l'importance d'avoir des représentations positives de couples noirs dans l'espace public et notamment dans la pop culture et dans l'histoire. La deuxième référence, c'est une référence française pour une fois, c'est la chaîne YouTube de Aaron et Zola. On n'a pas eu le temps de parler d'eux, mais c'est un couple de YouTubeurs noirs qui font un travail vraiment splendide sur justement les relations de couple et les choses comme ça. Ils font de longues vidéos, ils font des podcasts à la fois sur YouTube, ils font également des podcasts audio, ils sont également présents sur la plateforme Wattpad et ils ont fait une vidéo intitulée « Pourquoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes blanches qui auraient pu... ne... préfèrent les femmes blanches, pardon ?» et n'aime pas les femmes noires, qui est directement lié à notre sujet Black Love, je vous conseille de regarder. Ils ont également fait une vidéo appelée « Pourquoi le Black Love ne fait pas rêver aujourd'hui ?» Très intéressant, maté également.
Pourquoi le Black Love ne fait pas rêver ? Alors ça, c'est une question, on va dire, qui fait un peu mal, mais je pense qu'il est important de l'aborder parce qu'on ne change pas les choses en étant dans le déni.
Et puis, ouais, rien à voir, mais Zola a fait un live sur la Nuit des Noirs à Dunkerque que j'ai trouvé également vraiment intéressant, à la fois intéressant et poignant et critique. Enfin, c'était génial. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps, ils sont mortels. Allez-y, Aaron et Zola, franchement, gros big up pour eux. On va rester un petit peu sur le Black Love, enfin, on va faire une petite transition Black Love parce qu'on a vu un film qui s'appelle Le Rêve Français, une série, ouais. Mini-série qui s'appelle Le Rêve Français où il y a également un Black Love finalement.
C'est ça, un Black Love entre Yann Gell et Aïssa Maïga. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'il y a aussi un autre personnage qui apparaît. Mais bref, le film dont je vais vous parler, le téléfilm dont je vais vous parler, s'appelle Le Rêve Français. Ça a été réalisé par Christian Faure. C'est une fiction historique, donc avec Aïssa Maïga, Yann Gell et Aude Le Gastellois, qui sera diffusé les 21 et 28 mars sur France 2.
Mais nous, on est VIP, on l'a vu avant parce que...
À qui est la Guadeloupe ? Aux Américains ?
Ah
ouais ! Aux Français ?
Ah
ouais ! Je vous dis, à qui est la Guadeloupe ? Elle est en Guadeloupéen !
Ouais !
Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça revient sur le Bumidome, un épisode méconnu de l'histoire de France qui va ramener des milliers d'Antillais de Réunionnais vers l'Hexagone. À la distribution, on retrouve donc Yann Gell qui joue Samuel Regnat, Moi, je l'ai trouvé parfait, éloquent, crédible, avec ce goût pour la langue, comme espèce d'amoureux lorsqu'il plaide, l'avocat qui aime les mots, qui parle une langue un peu... Aïssa Maïga, ben, on parlait de Black Love à l'instant, et je trouve qu'elle fait ce qu'on appelle un love interest vraiment crédible. Pareil, vous en pensez quoi ?
Un love interest, c'est quoi ? Je sais pas.
C'est le personnage qui va concentrer la tension romantique du héros.
Ouais, moi j'ai pas aimé sa place de. Mais bon, mais elle joue très bien.
Mm-hmm.
Mais son rôle en tant que. Cette espèce d'amour, la chape de plomb. Après, j'ai vu que le premier épisode, donc je parle de ce que j'ai vu sur le premier épisode. Bon, après, ça sert le plot, hein, ça sert le scénario, etc. Mais bon, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Mais bon.
Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans le deuxième épisode, mais elle représente une certaine femme conservatrice, en fait.
C'est ça.
Voilà.
Je crois que c'est ça qui me dérange.
Mais qui existe.
Mais c'est pas. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, je crois que ça me dérange, mais elle avait besoin d'être comme ça. Elle a mis en place des stratégies et tout pour pouvoir s'en sortir, parce que c'était pas facile pour elle. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'amour un peu traditionnel qui m'a mise mal à l'aise.
Ce que je l'ai fait pour Doris.
Tu l'aimes encore ?
J'aime ma femme. Je suis très heureux avec elle.
Tu crois que j'ai pas compris ce qui se passe avec elle ?
Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre ?
Je vais quitter Paris, Sam.
Pour présenter le Bunidom, si vous connaissez pas, le Bunidom, c'était un organisme public français mis en place en 1963 par Michel Debré, donc qui était un homme politique français, mais qui était aussi député de La Réunion, donc dans l'Outre-mer, et qui a été dissous en 81 sous le gouvernement Mitterrand. Pendant la crise, donc on a mis le Bunidom en place pendant la crise de l'industrie sucrière et une période de chômage qui a sévi dans les départements d'outre-mer. Et c'est un programme qui permettait à la jeunesse d'outre-mer de migrer vers la France pour un avenir meilleur. Et souvent, en fait, ils se sont retrouvés avec des petits boulots subalternes dont les métropolitains ne voulaient pas, femmes de ménage, les hôpitaux de Paris, la RATP, les PTT.
Et c'est pour ça qu'on dit que tout le temps que les Antillais sont soit facteurs, soit dans les hôpitaux.
Ou la fonction publique.
Ça s'explique.
Exactement.
Est-ce que le Bunidom, c'est quelque chose que vous connaissez ? Est-ce que vous avez autour de vous des gens de la famille qui sont passés par le Bunidom ?
C'est J'ai bien. Posé la question à mes parents avant de venir et non, mon papa m'a parlé de plein d'autres choses liées au Bunidom, mais pas le fait que j'ai des parents qui, ou en tout cas de la famille qui soient partis à ce moment-là. Donc non, pas concerné directement dans ma famille.
Pareil, ouais, l'intégralité de ma famille est encore là-bas. Ouais. Je me rappelle avoir vu un documentaire sur le Bunidom il y a quelques années. Mes parents,
l'avenir est ailleurs, c'est ça ?
Je crois que c'est ça, ouais. Et non, je crois pas qu'on soit concerné non
mais
plus.
Mais tu sais, quand j'ai dit à ma mère, ouais, je vais chez Arte, on va parler Bunidom et tout, au travers d'un film qui s'appelle Le Rêve Français, elle m'a dit quoi ? Le Rêve Français ? Mais non, Le Cauchemar Français. Donc c'est pour te dire ce que ça évoque pour elle, en fait, le Bunidom.
Le Bunidom, c'est pour beaucoup, ça va être presque quelque chose de tabou dans certaines familles. Parce que entre les années 60 et 80, en fait, ceux qui partaient, c'était souvent les plus défavorisés. Donc, et qui se retrouvaient à devoir faire des choses parfois assez difficiles dans des conditions inhospitalières. Et donc, les gens n'ont pas spécialement envie d'en parler. La première chose que moi, qui m'a frappé dans le téléfilm, c'est le traitement de mai 67.
Ouais.
Dans le premier épisode, qui est un événement tragique. En fait, la Guadeloupe, comme la Martinique dans les années 60, c'est un contexte économique et social très compliqué. À Basse-Terre, en Guadeloupe, il y a des tensions raciales. Notamment, il y a eu quelques mois avant mai 67, il y a eu l'affaire Zerneski, un commerçant raciste blanc qui avait envoyé son chien contre un commerçant noir. Enfin bref, ça a été monté, ça a créé beaucoup de tensions. Et puis là, en mai 67, donc une grève qui est réprimée à balles réelles et qui se termine dans le sang. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de parts d'ombre. On ne veut pas dire combien exactement il y a eu de morts. Officiellement, il y en a eu 8, mais en fait, il y en aurait eu des dizaines et des dizaines. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Christiane Taubira dit, j'ai lu qu'elle parle de plus d'une centaine de morts, au final, tu vois, alors qu'on parle de 8.
Ouais. À Pointe-à-Pitre, les manifestations dégénèrent. Les manifestants affrontent les forces de l'ordre avec des pierres, des bouteilles et des conques de lambi. Les militaires ripostent à balles réelles. De nombreuses personnes sont blessées et tuées.
Moi j'ai trouvé déjà assez courageux de la part du film de traiter de la question de l'autodétermination. Tu parlais de l'OJAM. Dans Le Rêve Français, on voit le GONG, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, qui a vraiment existé, qui existe encore. Contexte des émeutes, etc.
Il y, il y avait des organisations déjà en Martinique. Et moi, je sais que mes parents, mon père me parle tout le temps de la présence des RG en Martinique. Ouais. Je dis, ah, c'est une blague, arrête. Il me dit, non, c'est pas une blague. Dans le sens où le passé, en fait, de la Martinique et de la Guadeloupe, quand il y avait, en fait, des grèves, notamment, je pense à la grève des ouvriers de la banane en Martinique en 1950. 59 ou 74, je sais pas si
d'accord, ok.
Où en fait systématiquement on dit que chaque fois qu'en Martinique il y a une grève, ça se finit toujours dans le sang, en fait, où on tue des gens, où la police en fait, où la gendarmerie tue des gens. Donc c'est un contexte qui est assez violent, je pense, dès qu'on parle de grève. Et ça me fait penser à quand mes parents m'ont toujours dit ça, que quand il y avait des grèves, ça se finissait toujours dans le sang. Et en 2009, quand il y a eu les grèves, les grosses grèves en Martinique,
du
LKP, exactement, en Guadeloupe. Et j'avais toujours un peu en tête ces trucs de peut-être que mes parents vont se prendre une balle, enfin, que ça peut se terminer très mal, en fait.
La répression des mouvements sociaux en Outre-mer
est extrêmement violente.
Beaucoup plus violente que sur le continent. Quoi.
Juste pour terminer sur mai 67, je vous recommande un article d'Emeline Amétis qu'elle a écrit l'année dernière pour Slate, qui s'intitule « Il y a 5 ans, les manifestations guadeloupéennes s'étaient terminées en massacre ».
Donc, ouais, j'ai lu, voilà. Il est très intéressant. Ouais.
Moi, ce dont je voulais vous parler, déjà, c'est qu'est-ce que vous avez pensé, vos impressions sur ce que vous avez vu. François, t'as vu les deux épisodes,
ouais.
2 fois 90 minutes. Célia, toi, t'as vu le premier.
J'ai vu le premier, ouais.
Ouais.
Ouais. Non, c'était une très bonne. Comme tu disais, c'est une série assez courageuse. Généralement, les productions françaises, surtout une production comme celle-ci qui est destinée à la télé publique, hein, généralement, ils essaient beaucoup de lisser le propos, voire d'invisibiliser. Là, non, on a vraiment des personnages antillais. Après, les acteurs qui les incarnent pas toujours issus des Antilles. Mmh. Mais en tout cas, il y a un vrai effort de parler de toutes les problématiques liées aux Antilles. Donc le Bimidom, puisque le personnage principal incarné par Yann Gaël est déporté en France via le Bimidom. Mais on parle aussi du chlordécone.
Ouais.
Ça parle de beaucoup de choses, et c'est très frontal, je trouve, et c'est plutôt bien mis en scène, donc ça, j'ai trouvé ça appréciable. Le seul truc qui m'a, moi, un petit peu fait tiquer, c'est l'usage du créole dans le film, en fait. J'ai apprécié qu'ils injectent du créole dans le film, parce
ouais,
que c'était
pas...
Ouais,
sauf que le créole s'injecte pas à ce stade, hein. C'est vraiment quelque chose qui est...
Ouais, c'est ça qui
est très fort, en fait.
C'est ça qui m'a gêné, en fait. C'est toute la spécificité, je trouve, du créole par rapport à une langue comme, je sais pas moi, l'espagnol. Tu vois, tu peux faire un film sur une communauté espagnole avec des petits bouts d'espagnol, mais le créole, c'est un peu tout ou rien, quoi. Je sais pas comment dire.
Et surtout à ce moment-là, en fait, où on est vraiment dans des moments... Après, le créole reste une langue, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent une langue qu'on utilise dans des moments où il y a de l'émotion, par exemple.
Bah oui, c'est la langue de la spontanéité. Et là, on dirait qu'ils
malheureusement,
injectent...
Malheureusement, mais oui, c'est effectivement...
On dirait qu'ils injectent des répliques un peu au pif,
et
en créole.
Et puis en créole brodé,
et
mon
en
Dieu.
Créole, en créole brodé,
oh
avec
là
un
là
accent
là
bizarre.
Là,
moi...
C'est dur, hein.
Pati, petit homme, pati.
Moi aussi, je vais partir.
Et dernière chose, Firmin Richard, ça a fait bizarre parce qu'il y a quelques mois, là, en décembre dernier, avec Evie Mélanie, on parlait de La Deuxième Étoile, tu sais, le film de Lucien Jean-Baptiste,
ouais.
Où l'accent de Firmin Richard était vu comme vraiment un ressort comique. Là, on a exactement...
C'est quoi La Deuxième Étoile? Mais vous aussi, vous allez voir ça.
Ah, on est un peu maso. Là, on a la même actrice qui, d'ailleurs, a un rôle qui, moi, m'a énormément touché. Je sais pas pourquoi, alors qu'elle a un petit rôle, mais elle m'a énormément touché.
Ah, parce que c'est la maman.
On a la même actrice avec le même parler, et c'est pas du tout drôle. Et merci, parce que... Bah,
c'est
voilà,
grave, parce que le ton est grave, en fait.
Oui,
c'est
voilà, tout simplement.
Mais... Donc, il y a peut-être... Moi, j'ai trouvé le film très cool. À part effectivement les accents, le fait que les deux acteurs principaux soient joués par effectivement un Camerounais et j'ai oublié, je sais plus, Aïssa Maïga, c'est pas tellement grave parce que au final il fallait deux acteurs noirs pour jouer ces rôles-là.
Cahier des charges remplies, du coup.
Ouais, cahier des charges remplies. Je suis très contente parce qu'ils jouent très bien tous les deux. Hein. La question n'est pas du tout d'eux et du fait qu'ils aient ces rôles-là. La question c'est plutôt qu'est-ce que ça dit du cinéma français où on n'est pas capable en fait de trouver deux acteurs guadeloupéens ou martiniquais pour jouer des rôles. De Martiniquais, de Guadeloupéens, et on n'imagine pas que Martiniquais et un Guadeloupéen puissent jouer le rôle d'un papa et d'une maman qui viennent d'Afrique de l'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest pour un regroupement familial, par exemple. Mm. Tu vois, donc ça m'a un peu gêné. Je voudrais pas faire le jeu de Samuel L. Jackson, tu sais,
que les Anglais prennent,
parce que c'est pas du tout la même échelle. Il s'agit pas du tout de la même échelle, et le marché des films noirs américains est déjà beaucoup plus développé. Enfin, il existe au moins. Mm. Je dis pas qu'il est au top, mais il existe, alors qu'ici, n'existe pas. Et voilà, mais en tout cas, oui, Aïssa Maïga et Yann Gaël sont excellents dans le film et c'est très cool, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très bien.
Dernier petit truc, c'est sur vraiment sur le fond, sur ce qui est dans le film, et le thème principal du film, c'est le Bumidom. Et moi, j'ai un peu l'impression que en traitant du Bumidom, le film aussi s'est penché sur un demi-siècle de choix politiques douteux en Outre-mer. Le Bumidom, c'est aussi l'histoire des enfants déportés, des enfants réunionnais déportés de la Creuse. Alors, ça, ils n'en parlent pas directement dans le film, même s'il y a des personnages réunionnais. La question du chlordécone, ils en parlent, c'est vraiment dans le deuxième épisode, ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, il y a une enquête là-dessus, la question de la religion. Mais voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se pencher sur l'histoire du Bumidom et le rapport que ça montre entre une France et son Outre-mer. Françoise Vergès, dans Le Ventre des Femmes, parle en fait du contexte dans lequel ça a été mis en place. On parle beaucoup de surpopulation, de démographie galopante, de besoin de rattrapage et de développement. Mais en vérité, c'est une marche forcée vers l'assimilation, oui, je l'ai dit. Et ça se prouve, selon elle, par un double mouvement croisé. Politique nataliste en France et politique antinataliste dans les Outre-mer. Invitation à quitter leur pays pour les habitants des DOM et à venir s'installer dans les Outre-mer pour les Français. Sévérité des lois sur l'avortement à cette époque-là en France, alors qu'on pratique l'avortement forcé, la contraception sur mineurs sans consentement des parents, plein de choses comme ça.
Ouais, c'est une saga familiale qui s'étend sur facilement 50 ans, donc c'est aussi une sorte de roman historique. Quoi,
et c'est très simple, mais on n'a jamais eu, très rarement eu, des choses comme ça. Je crois que de la part de France Télévisions, une dernière fiction sur de l'histoire de l'Outre-mer de cette ampleur-là, c'était Toussaint l'Ouverture il y a environ 5 ans. Ouais. Et c'est assez à la fois compliqué et pourtant très simple de se dire on va suivre juste une famille nantillais pendant un demi-siècle et il y a plein d'histoires cool à raconter. Donc voilà, moi j'espère juste que ça va encourager... que vous irez regarder cette fiction et que ça encouragera France Télévisions et d'autres, Canal+, Arte et compagnie, à proposer des fictions pertinentes sur l'histoire de l'Outre-mer, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, on vous rappelle, c'est Le Rêve français, téléfilm en deux parties, réalisé par Christian Faure, et ce sera disponible sur France 2, enfin, ce sera visible sur France 2 les 21 et 28 mars.
Alors moi j'ai une recommandation assez light. Je suis venu au monde avec plusieurs questions existentielles, d'où je viens, qui je suis, et évidemment quelle est ma chanson préférée de Kanye West. Enfin, je pense que c'est normal. La question que tout être humain se pose une fois à un stade de sa vie. Heureusement pour moi, il y a un mec qui a répondu grâce à une grille qui s'appelle Kanye Madness. Donc c'est un tweetos américain qui s'appelle Carrington Harrison. Et en fait, il a fait une sorte de grille. Imaginez comme une grille de championnat. Vous voyez, avec toutes les équipes, etc.
Avec les éliminations, 16e, 8e.
Voilà, c'est ça, comme une arborescence. Et donc, toutes les 64 meilleures chansons de Kanye West sont toutes en lice. Et en fait, bah, c'est simple, vous faites s'affronter les chansons deux par deux, vous choisissez laquelle vous préférez, vous faites un gagnant, et ainsi de suite. Et comme ça, vous faites... évoluer le championnat jusqu'à arriver à la chanson.
Et donc, alors c'est qui
Moi, personnellement, c'est Devil in a New Dress qui a gagné, parce que je l'ai fait gagner contre n'importe quelle chanson, mais c'était assez éprouvant. Voilà.
Okay.
Kanye Madness, ça s'appelle Kanye Madness, vous le retrouverez sur Twitter. Tapez Kanye Madness.
C'est là.
Moi, je voulais recommander une poétesse. En fait, je l'ai découverte comment ? C'est, on avait fait Piment et une des personnes du podcast, qui s'appelle Gaëlle, avait parlé en fait d'un problème qu'il y avait eu avec... quelqu'un s'était approprié le travail d'une poétesse noire. Et,
je l'avais entendu, c'était bizarre.
Voilà. Et elle parlait en fait de Nahira Waid. Donc Nahyyrah Waid, W-A-I-D. H2ED. En fait, c'est une poétesse qui a publié deux livres de poésie jusqu'à présent et qui décrivent comme étant l'une des poétesses les plus célèbres en fait d'Instagram. Et pourquoi je vous recommande cette personne ? Parce que depuis que Gaëlle nous a conseillé dans le podcast cette poésie, je la regarde tous les jours dès qu'il y a quelque chose qu'elle publie et c'est vraiment une lecture qui fonctionne sur moi comme une caresse en fait. C'est vraiment très doux, très agréable ce qu'elle écrit, ça fait vraiment du bien.
Comment tu l'appelles ?
Alors, c'est Nahira Waid. Donc, N-A-Y-Y-I-R-A-H, Waid, W-A-H-2-E-D.
Ok, on mettra un lien de façon dans le... Dans
voilà.
Et toi, Kev ?
Eh bien, moi, ma recommandation, c'est un documentaire qui va bientôt passer sur France O, le 25 mars, qui s'appelle « Gallo sur le tombolo », qui est un documentaire d'Olivier Ozier-Lafontaine. Et donc, si vous ne savez pas, un tombolo, c'est un cordon de sédiments reliant deux étendues terrestres. Merci Wikipédia. Bref, c'est très, très beau. Et en fait, dans la commune de Sainte-Marie, en Martinique, tous les 15 août, des courses de chevaux et de mulets attirent des milliers de spectateurs. Donc, en fait, le mulet a une place assez importante dans le folklore en Martinique. Mais en fait, il avait disparu après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu une mécanisation de l'économie. Dans le documentaire, ils expliquent qu'apparemment, c'est parce que les soldats américains avaient laissé des camions, des jeeps en Martinique. On s'en est servi pour la récolte. Et donc, il avait disparu. Et puis, on suit en fait les passionnés du mulet qui, depuis quelques années, réintroduisent le mulet, organisent des compétitions de mulet, donc celle du 15 août, mais pas uniquement. Et aussi des passionnés, notamment un monsieur qui s'appelle Assier de Pompignan, qui a une habitation et qui a décidé de fonctionner uniquement avec du mulet, d'arrêter la mécanisation, etc. Donc c'est très très cool, et ça peut même servir de moteur économique, touristique, un truc en plus un peu plus durable. Donc voilà, je recommande le 25 mars sur France O.
L'épisode est fini pour aujourd'hui, on revient donc dans deux semaines, j'espère, oui, parce que bon, la dernière fois on vous a posé un peu un lapin, on a dit qu'on revient dans deux semaines, en fait on s'est barré un mois, donc on revient quand on revient, hein. Voilà, c'était le chip. En attendant, vous pouvez nous laisser des étoiles sur l'application iTunes,
il me semble
écoute, c'est pareil, wesh, hein, c'est Steve Jobs, tout ça. Laissez 5 étoiles, en dessous de 5 étoiles ça ne fonctionne pas, l'appli se désactive, votre compte est piraté,
votre téléphone explose, boum.
Exactement. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Twitter, @lecheeppodcast. Cette émission a été réalisée par Samuel Hirsch, que nous saluons. Merci Célia d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
C'était un plaisir. Oui. Gros bisous. Retrouvez Célia sur Moonwalk, le rack.
Il y a quoi d'autre ? Rack Talk, il y en a plein.
On est partout. Voilà.
On est là.
Allez, des gros bisous, à bientôt.
Bye bye.
Bye. Salut.
Arte Radio.com